L'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité, disait Nietzsche. Selon le philosophe, l'art sert à embellir la vie, à cacher le néant de nos existences. Nous guérissons grâce à l'art. Alors pour surmonter cette période, je vais aller à Paris, direction le Louvre. J'ai même droit à une visite privée de l'exposition Léonard de Vinci.
La Sainte-Anne, qui est derrière moi, on a pu justement comprendre qu'au cours de ces années de réflexion sur le tableau et de perfectionnement de l'exécution picturale, Léonard avait, par exemple, supprimé tous les éléments les plus anecdotiques et les éléments trop démonstratifs, notamment la gestuelle qui aurait été trop éloquente, pour se concentrer sur le mouvement naturel des figures, le pivotement naturel de ces trois personnages, et aussi donner la primauté aux expressions, et notamment à ces sourires absolument éblouissants qui sont une variation sur le sourire de béatitude de Sainte-Anne, le sourire divin de Jésus, et peut-être le plus émouvant pour nous humains, le sourire encore empreint de mélancolie de la Vierge, une mère qui découvre que son fils va être sacrifié.
Le mouvement de cette œuvre, son singulier réalisme vaporeux, ses traits légers et précis sont là, en face de moi. Une douce lumière caresse ces deux femmes et cet enfant. Cette simplicité, cette douceur énigmatique me fait voyager près d'un demi-millénaire en arrière, dans l'histoire de l'art, en Italie. Direction les rues du quartier Beaubourg. Allons au centre Pompidou, cet ovni architectural audacieux. À son inauguration en 77, le centre était surnommé Notre-Dame de la tuyauterie. Les passerelles électriques, les tuyaux, les escaliers métalliques, ce qui est habituellement invisible est ici dévoilé aux yeux de tous. Me voici à l'exposition Bacon en toutes lettres.
On est au cœur même du projet de cette exposition, c'est-à-dire la mise en parallèle des tableaux de Bacon avec des livres qui sont sortis de sa bibliothèque. Le premier auteur auquel Bacon fait référence très tôt dans les années 30 et qui va devenir une figure presque obsédante pour lui dans les années 70 et 80, c'est le grand tragédien grec Eschyle. Il découvre Eschyle à la fin des années 30 et dans les années 70, ses textes d'Eschyle vont revenir à son esprit et en particulier sous la forme de ses furies, de ces Euménides, qui sont des créatures qui, dans la tragédie d'Eschyle, ont pour mission de poursuivre les coupables, les criminels. Et Bacon se sent coupable de la mort de son compagnon. Et dès lors, la culpabilité va prendre la forme dans ses tableaux de l'apparition multiple de ces figures des Euménides.
Bacon est un peintre anglais du XXe qui peint la violence, la cruauté, la tragédie. Ses œuvres sont à la fois belles et terrifiantes, libres et modernes. Le domaine de Chantilly, magnifique château classé, accueille dans son enceinte le musée Condé. Il est entouré par une forêt. Cette fois-ci, le domaine rend hommage à Raphaël, le grand maître de la Renaissance.
Nous sommes ici devant peut-être le tableau le plus célèbre de Chantilly, ce sont les Trois Grâces de Raphaël. C'est un tableau monumental malgré sa petitesse. C'est un tableau de jeunesse de Raphaël. On est encore dans ces années à Urbino et en Ombrie, entre 1502 et 1504. Et vous avez un tableau d'une composition et d'une harmonie extrême. Ce qui est intéressant, peut-être qu'on peut commencer par ça, c'est quand on regarde le dessin sous-jacent à ce tableau via les réflectographies infrarouges. Et on voit qu'à l'origine, il y avait juste la grâce de gauche qui tenait une boule et une pomme d'or, tandis que les deux autres, en fait, se tenaient réciproquement ou se cachaient leur intimité. Et puis, dans un second temps, finalement, Raphaël a modifié sa composition pour créer les trois grâces. On pense qu'à l'origine, c'était peut-être le jugement de Paris, avec l'élection de la plus belle des déesses, et que ça ensuite a été transformé en trois grâces harmonieuses, tenant chacune une boule d'or. Cette composition était finalement beaucoup plus aboutie, beaucoup plus balancée, beaucoup plus équilibrée, d'où peut-être ce changement. Ce qui était aussi important de savoir, c'est que ce tableau a un pendant à la National Gallery de Londres, qui s'appelle Le Songe du Chevalier. Vous avez trois personnages qui peut-être représentent cette fois-ci les trois vertus masculines, tandis qu'ici, ce serait plutôt les trois qualités féminines qui seraient représentées. Alors, lorsqu'on regarde la réflectographie, on voit que, notamment pour la grâce centrale, il y a un modèle sans doute masculin qui a posé, parce que ses fesses étaient beaucoup plus remontées, beaucoup plus musclées, beaucoup plus masculines en quelque sorte, et qu'ensuite, Raphaël a féminisé cette figure. Alors finalement, c'est assez classique de faire poser des hommes pour ensuite représenter des femmes, parce qu'il était interdit, en tout cas déconseillé, de faire poser des femmes nues dans des ateliers dans l'Italie de la Renaissance.
Ces trois grâces dansent sous mes yeux, quasiment identiques. Quelle pureté! Cette œuvre de Raphaël est parfaite, les gestes de ces femmes sont gracieux et leur pose élégante. Il paraît que l'art et la beauté sont les meilleurs remèdes contre la douleur. Mon voyage imaginaire, en l'espace d'un instant, m'a servi de refuge.